Gloire à Dieu. Nous continuons notre série Béréen l'explorateur. Nous sommes en train d'étudier maintenant le livre de Cantiques des Cantiques. Et nous avions dit que si c'est appelé Cantiques des Cantiques, c'est parce qu'il y a d'autres cantiques, il y a d'autres poèmes, il y a d'autres passage qui parle de la relation merveilleuse entre Dieu et son peuple, Dieu et ses enfants. Mais ce cantique est particulier parce qu'il est dans le maximum de cette relation-là. Donc ce cantique montre la relation maximale entre Dieu et son peuple, hein, un reste d'Israël et aussi Dieu et son Église, mais aussi Dieu et chacun de ses enfants, chacun de ceux qui croient en lui. Et s'il était donné à l'un d'entre nous, chrétiens, la majorité, je ne dis pas que tous, la majorité des chrétiens ou même la majorité de juifs de l'époque, de choisir par eux-mêmes pour mettre ce livre dans le canon des Écritures, je crois que peut-être moi le premier, je ne l'aurais pas mis, puisqu'il y a des phrases qui donnent l'impression d'une certaine légèreté. Mais Dieu montre une fois de plus qu'il est au-dessus des raisonnements humains, il est au-dessus de la logique humaine, puisque lui, il a décidé que ce livre fasse partie du canon. Pour ceux qui auraient des idées du genre, ben ça peut être, c'est peut-être une erreur qui s'est faite que ce livre se retrouve là. Ben, ils doivent aussi considérer que c'est une erreur toute la Bible, parce que c'est la même personne qui a mis les autres livres, qui a mis aussi celui-ci. Voilà, donc il faut, ou on prend toute la Bible, ou on prend qu'une seule partie. Dans ce cas, c'est celui qui prend une partie qui devient Dieu, parce que c'est lui qui décide ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Comme nous entendons dans les milieux protestants, évangéliques, des gens disent, la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais elle contient la parole de Dieu, certaines paroles de Dieu, mais il y a des parties qui sont le résultat de coutumes humaines ou bien de dire des humains. C'est complètement faux, puisque ces gens-là, maintenant, ils sont obligés de nous dire ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Et en faisant cela, c'est eux qui deviennent Dieu. Donc, parce qu'ils décident ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. La Bible, c'est où on prend tout, où il faut laisser tout. Parce que qui te donne l'autorité de décider ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu? C'est Dieu lui-même qui doit dire ce qui est de lui et ce qui n'est pas de lui. Ce n'est pas l'homme. Et nous avons déjà fait des séminaires là-dessus. Lorsque nous voyons la constitution de la Bible, eh bien, nous comprenons que Dieu en a lui-même construit la composition. C'est lui-même. C'est lui-même qui a construit tout ça jusqu'à ce qu'on arrive au livre d'Apocalypse, hein, qui nous interdit de rajouter ni de retrancher. Et donc, Cantique de Cantique, c'est vraiment la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre ce livre et à le mettre en pratique, nous serons véritablement des vrais enfants de Dieu, des vrais disciples de Jésus, parce que ce livre parle de l'amour maximum entre Dieu et ses élus. Donc nous en sommes au chapitre 2. Chapitre 2.
Je suis un narcisse de Saron, un lys des vallées. Comme un lys au milieu des épines, tel est mon ami parmi les jeunes filles. Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. J'ai désiré m'asseoir à son ombre, et son fruit est doux à mon palais. Il m'a fait entrer dans la maison du vin, et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin, fortifiez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. Que sa main gauche soit sous ma tête, et que sa droite m'embrasse.
Amen. Voilà cette première partie du chapitre 2, où la bien-aimée dit « Je suis un narcisse de Saron, un lys des vallées. » Voilà. Un lys, c'est une fleur simple. Donc, il est un narcisse de Saron, un lys de vallée. Donc ça montre la simplicité de la présentation. Le lys ne fait pas partie des fleurs extraordinaires. C'est une fleur simple, mais qui attire le regard du maître plus que les autres fleurs qui paraissent très très belles. Non, c'est pour nous dire que Dieu est attiré par les gens qui sont simples. Il est écrit, il résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Et dans Apocalypse 3, 8, c'est dit, puisque tu as peu de puissance, mais que tu as gardé ma parole, eh bien, moi, je t'élèverai. Je ferai que ceux qui sont de la synagogue de Satan se prosternent devant toi. Donc, à chaque fois, Dieu est attiré par ce qui est humble et qui reconnaît en lui la seule source de tout. Je suis un lys des vallées, une fleur simple. C'est ce que Dieu attend de nous, que nous soyons simples devant lui et devant les hommes. C'est comme ça que nous l'attirons. Nous ne l'attirons pas en faisant des exploits, parce que c'est lui qui produit ses exploits à travers nous. Nous ne l'attirons pas en faisant, parce qu'en réalité, c'est lui qui les produit à travers nous. Nous l'attirons quand nous sommes faibles devant lui pour dire, j'ai besoin de toi. Je m'attends à toi, je me repose sur toi. Et il est écrit comme un lys au milieu des épines. Tel est mon ami parmi les jeunes filles. Voilà, nous sommes entourés des épines, mais nous sommes gardés. Normalement, une fleur fragile comme ça devrait être détruite par les épines, mais non, nous sommes gardés par Dieu. Dans notre simplicité, dans notre petitesse, Dieu nous garde quand même. Bien-aimés, il y a des choses que nous avons sues des années plus tard concernant des dangers que nous encourions à un moment donné, alors que nous étions petits, innocents, nous ne les voyons pas ces dangers. Mais 10 ans, 15 ans plus tard, nous nous rendons compte d'où nous venons et nous disons, mais finalement, alors que j'étais faible, sans force, Dieu m'a gardé. Ne serait-ce que quand nous étions des bébés, nous étions faibles et sans force. Mais Dieu nous a gardés. Il y a eu des guerres, mais nous étions peut-être dans une ville qui n'a pas connu la guerre. Dieu nous a gardés. Donc finalement, nous sommes au milieu des épines, mais Dieu nous gardera toujours, bien-aimés. Ne soyons jamais de ceux qui se laissent perturber par l'apparence de puissance des forces des ténèbres. Dieu est plus fort. Dans notre petitesse, il nous garde, il nous met près de lui comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. Et la bien-aimée dit de la même manière qu'elle, elle est un lys de Saron, un narcisse de Saron, une fleur simple. Ben, le Seigneur aussi, dans son apparence, est simple, comme un pommier. Un pommier, ce n'est pas un arbre immense. C'est un arbre moyen, vraiment. Donc, ce n'est pas un arbre qui attire par son déploiement. Non, c'est un arbre simple. Et à cause de ça, beaucoup d'humains préfèrent les hommes bruyants, puissants en apparence, que Jésus lui-même. Regardez, même au milieu des chrétiens, il y en a peu qui s'attachent à Jésus lui-même. Beaucoup s'attachent à ce qui paraît puissant, grand, ce qui attire la foule. Mais comme il y a dans ces choses-là parfois le nom de Dieu, donc il se cache derrière le nom de Dieu pour dire « nous suivons Dieu ». Mais au fond, ils suivent ce que Dieu produit. Quand Dieu semble produire des choses puissantes, ils suivent. Mais que Dieu vienne dans la simplicité de Christ, ils ne vont pas suivre. Nous l'avons vu quand Jésus faisait des miracles. C'est la foule qui le suivait. Mais quand il a décidé d'arrêter de faire les miracles, eh bien, il a commencé à voir progressivement la foule qui s'éloignait de lui jusqu'au moment de la croix pour le renier carrément. Et Jésus a dit une phrase. Il a dit, « Moi, je viens au nom de mon Père, vous ne m'acceptez pas. Mais quelqu'un d'autre viendra en son nom, vous croirez en lui. » C'est ce qui se passe aujourd'hui. En réalité, l'homme, c'est quelqu'un d'intérêt et quelqu'un qui cherche la gloire. Donc quand vous voyez des gens être musulmans, catholiques, beaucoup d'autres choses, si vous regardez même évangéliques, si vous examinez bien, vous allez vous rendre compte qu'il y a un intérêt souvent. Peu sont avec Christ que pour la vérité. Il y en a très peu. C'est écrit, large est le chemin qui mène à la perdition et étroit est le chemin qui mène en enfer, à la perdition. Très peu sont là que parce que Jésus est la vérité. Comme mon ami Pierre qui a dit, mais où irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vérité, de la vie éternelle. C'est toi. Donc Pierre a montré que lui, il était avec Jésus à cause des paroles de vérité. Parce que ce que de la vie éternelle, parce que ce que Jésus venait de dire était vraiment compliqué et beaucoup de gens en ont profité pour le quitter. Vous savez pourquoi les gens ont quitté Jésus? Parce qu'ils se disent que avec ce qu'ils viennent, ils se sont dit qu'avec ce qu'ils venaient de dire, les gens allaient le quitter. Autant moi aussi quitter en même temps. Voilà. Tu te dis, mais non, attends. Ils disent des choses pareilles. Certainement, les gens ne vont pas comprendre. Donc, je ne suis pas dans le beau camp. Nous allons commencer à être critiqués, nous qui le suivons. Moi, je ne veux pas avoir des problèmes dans ce monde. Je préfère m'en aller. Ils sont partis à cause de ça, parce qu'ils se sont dit, nous allons être critiqués, rejetés, diminués. Eh bien, autant fuir pendant que le bateau est en train de couler. Mais ils s'étaient trompés. Et ça s'est accentué quand il a été arrêté. Même les disciples l'ont abandonné, ensuite crucifié. Les gens ont dit, ah, mais il n'est pas de Dieu. Mais les vrais observateurs, le centenier romain au pied de la croix, lui a reconnu qu'il était de Dieu. Il a regardé au cœur, à la profondeur des choses, non pas à la surface. Bien-aimés, ne soyons pas des chrétiens de surface qui aimons que tout soit bien pour être en bonne relation avec Dieu. Un bon voisinage chrétien, un bon contexte chrétien, et là tu es attaché à Dieu. Non, non, non. Nous devons être attachés à lui, même si ce n'est qu'un pommier. Il paraît être un pommier, ça ne produit pas grand-chose comme apparence, mais ça produit des fruits que tout le monde aime. La pomme, c'est dans la pomme, il y a tout. Et tout le monde aime ça. Et alors que les grands arbres de la forêt, eux, ils ne produisent pas de fruits. Ils sont très impressionnants, mais ils ne produisent pas de fruits. Mais le pommier, dans sa simplicité, il fait vivre des pays, voilà, il fait vivre des villages. Et mon bien-aimé, il est comme un pommier au milieu des autres arbres. Donc du coup, même si Jésus est comme simple au milieu des grands de ce monde, des gens qui drainent l'argent, des gens qui font succès, des gens qui passent de poste de gloire en poste de gloire ministériel, Jésus est le meilleur. Il dit, mon bien-aimé, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes, j'ai désiré m'asseoir à son ombre et son fruit est doux à mon palais. Il m'a fait entrer dans la maison du vin et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. La bannière, c'est quoi? La bannière, c'est un symbole de victoire, donc une sorte de drapeau qui symbolise un pays, mais surtout dans la victoire. Donc on a une bannière quand on va au combat, et c'est cette bannière qui sera affichée au moment de la victoire. On affiche cette bannière-là. Et dit, et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est l'amour qui a triomphé de nous. C'est l'amour qui a triomphé de nous. Je parle de vrais chrétiens. Ce n'est pas, comment dire, ce ne sont pas les miracles. Les vrais chrétiens, ce n'est pas le nombre qui va les impressionner. Les vrais chrétiens, ils aiment le Seigneur. Ils aiment leur maître. C'est l'amour. L'amour les a saisis. Comme Jérémie a dit, « Seigneur, tu m'as séduit et je me suis laissé séduire. Tu m'as terrassé par ton amour. Tu m'as convaincu. » Et c'est ça. Jésus a triomphé de notre résistance par son amour. Je recommence encore, je parle des vrais chrétiens. Tous ceux qui suivent Jésus à cause de la morale, parce que ce qu'il dit, c'est comparable au code pénal, au code civil. Il est interdit ceci, de se faire ceci. Il est interdit de faire cela. Comme les pharisiens suivaient Dieu dans cet esprit-là, ils finissent par se détacher de ce même Dieu-là. Comme les pharisiens, au début, ils professent Dieu, mais ils finissent par leur attachement à la morale plus qu'à l'amour de Dieu, ben ils finissent par se détacher de ce Dieu-là en rejetant les humains que Dieu a créés, et eux-mêmes en s'attachant à des péchés qui ne sont pas bien, bien visés par la morale, comme l'attachement à l'argent. Ce n'est pas bien, bien visé par la morale, le code pénal, le code civil ne t'attaquera pas parce que tu es attaché à l'argent, parce que tu es cupide. Il n'y a pas d'article dans ce sens-là. Il n'y a pas d'article dans ce sens dans les 10 commandements pour dire « Ah, mais la cupidité, ce n'est pas bon. » Mais pourtant, nous savons tous que la cupidité, ce n'est pas bon. Donc finalement, ces gens-là qui s'attachent qu'à l'apparence, qui s'attachent qu'au commandement que tout le monde connaît, eh bien, finalement, ils tombent dans des péchés qui sont pas dit clairement dans la Bible, mais qui procède de la nature charnelle de l'homme, sans problème. Et parce qu'ils n'ont pas été vaincus par l'amour de Dieu. Ce n'est pas l'amour de Dieu qui les a attachés à Dieu. Même le frère Jean le dit dans 1 Jean 4, 19, « Nous, si nous l'aimons, c'est parce qu'il nous a aimés le premier. » C'est l'amour de Jésus qui transforme. Comment expliquer la vie des missionnaires qui vont avec leurs enfants et leurs femmes dans des pays hostiles où on mange les hommes? C'est l'amour de Christ. Ça ne peut pas être pour de l'argent puisqu'ils ne vont rien retirer là-bas. Ils prennent des risques inqualifiables. C'est l'amour. Ce n'est pas la morale. Parce que ces gens-là peuvent vivre chez eux aux États-Unis tout en respectant la morale. Mais l'amour de Christ les a séduits et ils mettent en danger toute une famille pour aller évangéliser, pour être missionnaire. C'est l'amour. Bien-aimé, c'est ça qui va faire la différence entre deux chrétiens. Il y a celui qui fait les choses pour être réglo et il y a un autre qui fait les choses parce qu'il a été touché par l'amour de Jésus. Vous verrez la différence. Celui qui fait les choses par amour pour Jésus ne tiendra pas compte du mauvais comportement des autres chrétiens. Ce qui, lui, il a été pris par l'amour de Jésus. Il ne cherche pas un réconfort par les humains. L'amour de Jésus l'a saisi. Celui qui est saisi par l'amour de Dieu continuera même en prison. Même quand il semble échouer, il est pris par l'amour. L'amour est inexplicable. Et d'ailleurs, on va en parler encore davantage aujourd'hui. C'est ça, bien-aimé, la bannière qu'il étend sur nous. C'est l'amour. C'est ça qui doit attirer notre vie auprès de Jésus. Que sa main gauche soit sous ma tête et que sa droite m'embrasse. Amen. Voilà, je vais le serrer dans mes bras. Oui, question. C'est pas allumé.
Allô, voilà. C'est allumé. Au verset 2, il est écrit comme un lys au milieu des épines. Telle est mon amie parmi les jeunes filles. Au verset 3, au premier verset, c'est Salomon qui parle. et au verset 2, et au troisième verset, c'est la tsunamite qui parle. Je voudrais que tu nous expliques ce regard de Salomon qui voit le lys au milieu des épines. Et ce regard de la tsunamite qui remarque le pommier au milieu des arbres. Ce regard de Salomon qui remarque le lys au milieu des épines, qui semble étouffer le lys, mais qui remarque ce lys et qui dit « Telle est mon amie parmi les jeunes filles. » Et qui remarque, et la tsunamite remarque son bien-aimé comme un pommier au milieu des arbres. Ce regard, au fait, comment tu expliques ça? Qui remarque, par exemple, quelque chose de bon au milieu des choses qui sont mauvaises.
Parce que, comme je l'ai dit précédemment, il est attiré par ce qui est humble. Dès qu'il y a quelque chose d'humble, il y a une forte attraction qui attire Dieu. Donc c'est une question d'attraction. Donc Dieu est attiré par ce qui est humble. Le lys, c'est une fleur simple. Voilà. Et le pommier, c'est un arbre simple au milieu des grands arbres de la forêt.
Il y a une différence avec le regard de quotidien, où je peux dire, ou du monde, où on remarque ce qui brille que ce qui est.
Effectivement. Mais c'est cela. Donc la différence, c'est que l'homme est attiré. C'est ce qu'on a dit par rapport au pommier. Donc les gens ne sont pas attirés par le Jésus simple. Ils sont attirés par les grands bâtiments, les gens qui font succès. Voilà, c'est ça que nous avons dit. Donc c'est que le Jésus pommier, c'est le Jésus simple qui est la vérité. Donc quelqu'un qui est de la vérité, il va s'attacher à ce Jésus, la pommier. Mais en général, les humains sont attachés à quelque chose, aux choses qui sont grandes en apparence. Voilà. Mais par contre, même le premier verset, ça reste toujours la bien-aimée. Je suis un narcisse de Saron, un lys de vallée, puisque le verset 2 le redit que, comme un lys au milieu des épines, tel est mon ami parmi les jeunes filles. Donc le verset 2 explique le verset 1.
Oui, c'est ces deux regards. La tsunamite a le même regard, comme si Salomon aussi avait le même regard pour eux.
Mais c'est ça, les gens de vérité sont attachés à la vérité qui est simple. Voilà, c'est pareil. Jésus a dit dans Jean 18, « Je suis venu rendre témoignage à la vérité, et ceux qui sont de la vérité m'écoutent. » De même que Dieu est attiré par les gens simples, mais qui sont purs dans leur cœur, dans le sens pas qu'ils sont infaillibles, mais dans le sens où ces gens-là n'ont soif que de la vérité simple de Dieu, mais de même que les gens de vérité sont attirés par la simplicité de Dieu. Ils ne sont pas attirés par ce qui brille, par ce qui est extraordinaire, mais par le fait que Dieu est simple et vrai. Voilà.
En revenant sur la pensée de ce que tu as dit au départ, qu'il y en a qui rajoutent, la Bible nous dit de ne pas ajouter ni de ne pas enlever. Et au verset 3, « Tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes, j'ai désiré m'asseoir à son ombre, et son fruit est doux à mon palais. » Est-ce que, je prends l'exemple d'Ézéchiel, bien que la parole de Dieu était amère, difficile, mais quand il a mangé la parole, il a eu l'impression que c'était doux dans son cœur. Je veux dire par là, qu'est-ce que je peux dire? Donc, par rapport au verset 3, « Et son fruit est doux à son palais. » Comment tu expliques ça, « à mon palais »
Je ne sais pas comment t'expliquer. C'est le pommier, la pomme, elle est douce.
D'accord, bon, je n'arrive pas à me faire comprendre. Ah. Ok. Au fait, par rapport à ce que tu avais dit au départ, qu'il y en a qui rajoutent quelque chose dans la parole de Dieu.
Ah, d'accord. Mmh. Peut-être me dire que la pomme lui suffit, quoi. Il n'a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. La pomme, il la trouve douce. Il se contente de ça. Donc, il ne cherche pas à rajouter autre, à faire des artifices. La parole de Dieu, toute simple, il s'en contente.
Amen. Mmh.
verset 7, un verset très important.
Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. C'est la voix de mon bien-aimé, le voici, il vient, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Mon bien-aimé est semblable à la gazelle ou au fang des biches. Le voici, il est derrière notre mur. Il regarde par la fenêtre, il regarde par le treillis. Mon bien-aimé parle et me dit, « Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens, car voici, l'hiver est passé. La pluie a cessé, elle s'en est allée. Les fleurs paraissent sur la terre, le temps de chanter est arrivé. » Et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Le figuier forme ses premiers fruits, et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens.
Voilà. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens, puisque les temps ont changé. Ne t'inquiète plus, maintenant nous sommes dans la félicité. Alors nous revenons au verset 7. Je vous en conjure, fille de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs. Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Nous commençons par l'amour tout simple. L'amour qu'il peut y avoir pour quelque chose. L'amour qu'il peut surtout y avoir entre un homme et une femme. C'est écrit, ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne veuille. L'amour, c'est quelque chose quand ça te saisit, ça devient presque incontrôlable. Donc, avant d'y entrer, il faut bien réfléchir. Il faut être conscient de cela. Et nous l'avions dit précédemment, beaucoup ont gâché leur vie à cause des sentiments d'amour. Donc, je commence par dire sentiments d'amour, parce que l'amour véritable, il est pur. Mais les sentiments d'amour, c'est-à-dire les sentiments d'attraction, ça s'appelle aussi amour. Donc il ne faut pas réveiller ça avant le moment. C'est-à-dire que tu as 18 ans, tu as 17 ans, tu veux réveiller ces choses-là pour quelqu'un, alors que tu n'as pas l'âge de te marier, tu te crées des problèmes. Quel que soit d'ailleurs l'âge, avant de penser à t'engager dans une affaire d'amour, puisque les enfants de Dieu, ça doit aboutir au mariage, il faut y réfléchir, il faut prier. Il ne faut pas que juste l'attraction te fasse entrer dans une logique d'amour, parce qu'après c'est incontrôlable. C'est comme ça que beaucoup se sont suicidés, parce qu'ils se sont laissés entraîner par un amour qui a été déçu. Ils ont pris des comprimés, ils sont morts. Il y en a qui ont gâché leur vie comme Laure Manaudou, qui était à 16 ans déjà championne du monde de natation, et qui est partie tomber dans les filets d'un escroc nageur italien, qui l'a déroutée carrément. Cette fille-là a perdu. Aujourd'hui, elle serait la reine de la natation depuis que ça a commencé. Mais voilà, l'amour l'a rendue folle et elle a tout perdu comme ça. C'est ça la réalité. Il faut faire attention à se laisser entraîner par les sentiments d'amour. L'attraction, quand elle vient, il faut la combattre, parce que tu te dis, mais non, moi je suis déjà marié. Tu te dis, mais non, je n'ai pas l'âge. Tu te dis, mais non, c'est un païen. Si je commence à être attiré par un païen, ben moi je suis une chrétienne, ça risque de mal finir. Je suis un chrétien, ça risque de mal finir. Donc il y a plein de choses qui peuvent servir de garde-fou pour dire, mais non, ce n'est pas encore le moment. Non, il ne faut pas. Et quand on n'écoute pas ces choses-là, nous sommes pris dans le filet de l'amour. C'est écrit, ne réveille pas, parce que quand tu as réveillé, c'est pratiquement trop tard. Faut, comme Jésus a dit, avant de construire une tour, il faut vraiment réfléchir. Et l'amour, c'est la même chose. Ne laisse pas l'attraction créer des sentiments d'amour sans que tu te défendes. Défends-toi, dis que non, ce n'est pas le moment. tu es engagé dans tel processus, tu es, voilà. Ça doit se réfléchir. Et si aussi tu dois y aller, eh ben ça doit se, tu dois décider ça avec Dieu, dans la prière, et avec les conseils de certaines personnes, parce que c'est toi qui es attiré, eux, ils ne sont pas attirés, elles ne sont pas attirées, elles peuvent donner de bons conseils, parce que toi, tu es déjà dans une forme de vague, dans une forme de vent, mais les gens qui ne sont pas dans ça, eux, ils peuvent te donner de bons conseils. Donc, n'entrons pas, ne nous laissons pas embarquer dans des sentiments d'amour sans y réfléchir sérieusement. L'attraction, ça attrape tout le monde. C'est pourquoi il faut résister, il faut voir ça avec Dieu, voir ça avec les garde-fous naturels que nous avons pour dire non, je n'ai pas l'âge, non, ce n'est pas encore le moment, non. Ça peut être un piège envoyé par le diable au milieu de nous pour me dérouter de la vie chrétienne. Donc il faut vraiment examiner la situation, il ne faut pas réveiller l'amour, parce qu'après, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Et c'est pareil pour l'amour pour Dieu. Ah oui, dès que tu es pris dans l'amour pour Dieu, ben tu deviens fou également. C'est ça la folie des missionnaires. C'est ça la folie de l'apôtre Paul. Quand il est saisi par l'amour de Jésus, il devient fou. C'est ça qui explique. Lisons Galates 2:20. L'amour pour Dieu, ça rend aussi fou et tu ne te contrôles plus. Mais c'est beau. Mais il faut le décider. Il faut dire, j'entre dans ça consciemment. Nous prêchons pour dire aux gens, mais quand tu entres dans le lien avec Dieu, eh ben on ne peut rien prédire. Tu peux aller à la lune pour lui. Voilà. Nous allons lire Galates 2:20.
J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi.
Amen, amen. Donc Paul a été traumatisé par l'acte de Jésus sur le chemin de Damas. Paul qui allait combattre les enfants de Dieu, les disciples de Jésus, Jésus lui apparaît dans sa gloire, pas le Jésus simple de Nazareth, mais le Jésus de glorieux du ciel. Il lui apparaît. Paul se dit, là, il va me tuer, il va me terrasser, m'écraser. Mais Jésus lui dit, non, je t'ai choisi pour parler de moi. Paul a été traumatisé par un si grand amour. Il a été traumatisé aussi lorsqu'il réalise le mystère de la croix, le mystère de Golgotha. Quand Paul réalise cet amour, il est traumatisé par un tel amour. Et lui-même aussi, il est épris du même amour. Il le dit dans plusieurs endroits. Il dit, l'amour de Christ nous presse. Est-ce qu'on peut lire 2 Corinthiens 5:14? Il dit, l'amour de Christ nous presse. C'était comme une pression sur lui. C'est incontrôlable. Donc c'est pourquoi il ne faut pas réveiller ça quand tu ne veux pas. En réalité, tu viens en hésitation. Non, quand tu entres dans l'amour pour Jésus, mais sache que c'est parti, quoi. C'est fini. Donc réfléchis bien. Dans quoi tu veux aller, voilà. Ne viens pas dans les choses de Dieu pour compléter le nombre ou bien pour être sûr d'aller au ciel. Entre dans l'amour véritable, mais c'est un amour explosif extraordinaire, voilà. Nous lisons 2 Corinthiens 5:14.
Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour nous, tous donc sont morts.
Voilà, l'amour de Christ nous presse. Bien-aimé, la vie chrétienne, c'est la vie d'amour. Ce n'est pas une affaire d'être réglo. C'est un amour total, malade, un amour fou. Et pourquoi c'est écrit « ne réveillez pas » si tu veux de la vie de bande FM, fréquence modérée, n'entre pas dans la relation avec Jésus. Ne réveille pas ça. Parce que ça va être un conflit en toi. Saisis qui il est et entre dans le véritable amour, comme des fiancés, comme c'est écrit là. Le cantique des cantiques, c'est le cantique des cantiques. C'est le sommet de la relation entre l'homme et Dieu. Ne réveille pas ça. Si tu ne veux pas, tu n'es pas prêt à ces amours-là, ne réveille pas. Reste à l'extérieur. C'est pourquoi c'est écrit dans Apocalypse 3, 15 à 16. Puisque tu es tiède, je te vomirai. Vaut mieux encore être froid, donc à l'extérieur. Mais n'entre pas dans les choses de Jésus pour être tiède. C'est une affaire de folie de 100%. Dans Actes des Apôtres, chapitre 4, les apôtres ont été fouettés parce qu'ils croyaient en Jésus. Il est écrit qu'ils étaient contents d'avoir été fouettés. Oh là, quel amour! Comment expliquer ça pour leur maître? C'est ça la relation avec Jésus. Il ne faut pas réveiller ça. Si tu viens avec le bricolage de fréquence modérée, reste encore à l'extérieur. Jésus ne cherche pas les clients. Il veut une vraie relation d'amour. C'est cela, bien-aimé. Comprenons cela. Il veut une vraie relation d'amour. Alors, si tu n'es pas prêt encore à cela, dis Seigneur, bon, je ne suis pas encore prêt. Je préfère rester à l'extérieur, mais bien sûr, à tes risques et périls, parce que si la fin du monde arrive, tu restes à l'extérieur pour de bon. Mais il faut, notre conseil, c'est quoi? Examine ce que Jésus a fait pour toi. Suis le chemin de Paul, de Jean, de Pierre, qui ont été traumatisés, séduits, frappés par l'amour de Christ. La bannière, c'est l'amour, et qui l'ont servi sans compter, qui ont vraiment donné leur vie. Et c'est ça, ne réveille pas. Alors si tu ne saisis pas encore les choses, demande à Jésus de se révéler à toi. Mais lui, il ne veut pas de relation moins que celle de Zachée, qui lorsqu'il rencontre Jésus, il vend tous ses biens. Ça ne compte plus ses biens. L'amour avec Jésus, où tu surveilles ta voiture, la petite, la plus petite rayure, ça ne compte pas. Ce n'est pas ça que lui, il cherche. Si tu trembles encore pour les biens, c'est qu'il y a encore un problème. Il y a encore un problème. L'amour pour Jésus rend fou. C'est pourquoi il ne faut pas le réveiller quand on n'est pas prêt. Donc aujourd'hui, tu es au courant. Donc si tu veux, tu retournes ce soir à la prière, tu dis, Seigneur, je me retire pendant un temps parce que je ne suis pas prêt. Mais c'est que ce sera une prière abominable. Hein. Mais bon, nous disons la vérité, mais ce que nous souhaitons, c'est que tu examines ce que Jésus a fait pour toi à la croix. C'est ce que le frère Paul dit dans Galates 2:20. Il dit, parce qu'il m'a aimé, et il a donné sa vie pour moi. Il a été crucifié pour moi. Il le dit dans 2 Corinthiens 5, 14. L'amour de Jésus m'étouffe, donc me presse, me met une pression pour moi aussi donner ma vie. Parce que si un est mort pour tous, chacun de nous doit donner sa vie pour lui. C'est ça le véritable amour. Le bricolage, Jésus n'en veut pas. Alors il dit, mais reste encore loin. Si c'est pas encore, tu n'es pas prêt, reste. Mais sinon, je t'invite. Voilà, c'est ça l'invitation, cantique de cantique, l'invitation à l'amour avec notre Dieu. Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Et ensuite, il dit, lève-toi, mon ami, ma belle, et viens, car voici l'hiver est passé, verset 11. La pluie a cessé et s'en est allée. L'hiver d'une relation sans Dieu. Quand c'est passé, maintenant c'est la réjouissance. Bien sûr, ça parle aussi de l'avenir, hein, du temps où nous serons définitivement avec Dieu. L'hiver sera définitivement passé, l'hiver de difficultés terrestres, ça sera définitivement passé et nous serons dans une félicité éternelle. Le figuier embaume en ses fruits et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Lève-toi, mon ami, ma belle. Et viens, le Seigneur t'invite, lève-toi et viens. Ne reste pas dans les faux amours avec le diable. Ne reste pas dans le bricolage avec un amour avec arrière-pensée du diable qui te piège par l'attraction pour te frapper plus tard. Non, non, non. Entre dans le véritable, dans l'invitation. Du fiancé véritable qui est Jésus-Christ. il t'appelle « Lève-toi, mon ami, ma belle. » Alors que tu es sale, lui, il t'appelle « ma belle » quand même. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, pour que quelqu'un te trouve belle, il faut que tu fasses quand même un peu d'effort. Mais lui, sans effort, tel que tu es, il t'appelle « ma belle ». Pourquoi aller ailleurs? Pourquoi? Nous continuons, verset 14. Oui?
En tant que chrétien, l'amour entre un homme et une femme ne doit-il pas être le même contre une mère et ses enfants ou entre les frères et sœurs en Christ,
non.
Loin de tous les clichés du monde? Puisque dans le royaume de Dieu, il n'y aura plus de mari et femme.
Oui, mais ça c'est dans le royaume de Dieu. Mais sur terre, l'amour entre un homme et une femme, il ne faut pas que l'homme pense que la femme c'est sa mère, sinon ça va faire des problèmes. Il y a une certaine égalité dans cette relation-là, alors qu'avec sa mère, il n'y a pas égalité. La maman, c'est la maman. Je la respecte, je l'écoute. C'est pas la même chose avec la femme qui est comme une forme d'unité, donc avec égalité, complémentarité.
Est-ce que cela signifie qu'on ne doit pas réveiller l'amour de Dieu avant de se sentir prêt à assumer cet amour, mais on ne pourrait pas y entrer sans ça? Y rentrer en s'attendant à ce que Dieu nous donne la force pour assumer cet amour.
Voilà, donc il faut y entrer en étant conscient de dans quoi on y entre. Le but, ce n'est pas que nous on aime Dieu avant d'y entrer. Le but, c'est d'être conscient dans quoi je vais. Donc l'histoire de construire une tour. Ce n'est pas nous qui allons construire le bâtiment. C'est Dieu qui va faire avec nous. Mais il dit, mais réfléchis avant d'y aller. Que de l'immensité de la tâche. Mais il ne te dit pas que c'est toi qui vas l'aimer. L'amour viendra de lui. Mais il dit, avant d'entrer dans mon contrat, sache bien que c'est un contrat de folie, un contrat d'amour fou. Voilà, c'est tout. Donc, on n'a pas besoin de se sentir aimer Dieu pour s'approcher de lui. Pas du tout. C'est une conscience de ce qu'il a fait pour nous, de cette invitation. Viens, ma belle. Donc, il t'appelle ma belle. Non, mais, souviens-toi de tout ce que tu trouves mauvais en toi, mais lui, il t'appelle ma belle. Quand tu es en face à quelqu'un comme ça, tu ne peux que le préférer, lui, puisque les autres vont te juger, vont dire, mais là, aujourd'hui, t'es mal coiffé. Là, il y a des ongles qui dépassent. Mais lui, il ne te juge pas. Il t'appelle ma belle. Alors, moi, je dis, mais moi, je préfère être avec quelqu'un comme ça, qui me considère beau, alors que je suis moi-même, je me considère pas beau. Voilà, donc ça, c'est le meilleur de fiancé. Oui.
Mais si quelqu'un a accepté le Seigneur et réalise qu'il n'aime pas le Seigneur à 100%, que faire?
Revenir à Dieu pour dire, Seigneur, je veux t'aimer à 100%. Voilà. Amène-moi dans cet amour-là.
Comment peut-on savoir qu'on est tiède? Parce que deux fois, l'Esprit de Dieu peut nous agiter et pendant 2 mois, c'est plus calme, mais tu cherches Dieu chez toi.
Tu cherches Dieu chez toi, ça veut dire quoi?
Bon, de ce que je comprends...
La tiédeur, je ne comprends pas cette phrase-là.
En fait, moi, de ce que je comprends, il dit comment savoir qu'on est tiède, parce qu'il y a des moments où on peut se sentir en force faire les choses de Dieu, et à un moment, on est un peu loin... de l'assemblée, par exemple, pour prier.
Ah, mais non, nous ne parlons pas de l'assemblée. Nous parlons du Seigneur.
Ça, c'est un peu ma compréhension par rapport à la question.
Non, nous parlons du Seigneur. Mais bien aimé, c'est comme si vous me dites, quelqu'un me dit, comment dire, je t'aime beaucoup, mais je veux être loin de tes enfants. C'est pas, ça ne marche pas. Les chrétiens sont les enfants de Dieu. Moi, je ne me vois pas dire. J'aime beaucoup Dieu, mais je ne veux pas la proximité de ses enfants. Ça ne marche pas. Même le papa là ne sera pas heureux de voir que tu dis de lui que tu l'aimes. Mais moi je me souviens quand un de mes enfants était petit, il y a quelqu'un qui nous invite, il dit, mais est-ce que vous ne pouvez pas faire garder votre enfant chez quelqu'un? Parce que un de mes enfants était un peu fort turbulent. Eh bien... finalement, je ne suis pas parti à cette invitation, mais il ne veut pas de mon enfant, il veut que moi je vienne. Je ne suis pas parti. Donc, là, c'est une parenthèse. Mais ce que je veux dire, c'est que l'amour pour Dieu doit être total. Il n'y a plus de raisonnement. Même ces histoires-là, l'amour n'a pas de raisonnement. Quand vous voyez une maman aimer son fils handicapé, il n'y a pas de raisonnement. Nous, quand on était jeunes, on croyait que c'est pas normal. Une telle femme, elle aime cet homme-là. Sûrement, l'homme a pris des fétiches pour elle. Parce que, à nos yeux, cet homme n'est pas beau. Il n'a même pas d'argent. Mais pourquoi elle est attachée à lui? Mais c'est parce que l'amour n'a pas de raisonnement. Tout ça, nous avons compris ça quand nous avons grandi. Quand nous avons commencé à voir ces cas-là se répéter, beaucoup d'entre eux se disent, donc l'amour, la femme n'est pas comme nous les hommes. Nous les hommes, on respecte quand même certains critères, mais les femmes, elles sont plus près de Dieu côté amour que nous les hommes. Donc ce qui explique que les femmes peuvent aimer quelqu'un qui semble pas agréable, parce qu'elles ont une certaine simplicité, comment dire, excellence de l'amour que nous les hommes masculins nous n'avons pas. D'ailleurs c'est pourquoi nous l'avions dit précédemment que Dieu lui quand il se compare dans l'amour, il se compare pas avec un homme, il se met en concurrence avec la femme. Parce que la femme peut aimer sans intérêt, vraiment, parce qu'à un moment donné, elle a été comme piégée dans un filet, et vous vous dites, mais c'est le fétiche. Hein. Mais ce n'est pas le fétiche, c'est que les femmes n'ont pas la même logique que l'homme dans l'amour. Donc, quand on commence à réfléchir à l'amour, il y a déjà un problème. L'amour nous emporte. Ça nous emporte.
Pasteur, est-ce que c'est méchant ou mauvais le fait d'être dur et fermé envers les hommes de sa génération afin d'éviter le filet de l'attraction des sentiments qui naissent parfois dans ce genre d'affinité entre hommes et femmes?
D'être dur, non. L'amour de Christ est plus fort que l'amour pour les hommes. Et plus nous allons dans cet amour, moins nous aurons de goût pour l'amour charnel. Donc si Jésus nous a laissés sur terre, c'est parce qu'il est conscient que l'amour que nous lui portons et que lui soutiendra est plus fort que l'amour que nous pouvons porter à l'argent ou aux hommes. Et nous devons faire confiance en cet amour-là. Nous ne devons pas, dès qu'on met la peur, on sous-estime la relation que nous avons avec Jésus. Nous avons une relation forte, mais nous ne nous en rendons pas compte. Et c'est ce que le Cantique des Cantiques nous décrit, cette relation-là. Le verset superbe qu'on va lire, mais le temps, on va le lire parce que c'est important. J'ai même mis le titre de ce verset pour aujourd'hui, le verset 16. Eh bien, nous allons nous rendre compte que, voilà, dans ce verset 16, nous sommes à lui, il est à nous. Nous ne devons pas avoir peur des choses de la terre. Ça nous attire. Mais ça ne vaincra pas l'amour de Christ. Soyons confiants.
Voilà. Et l'internaute ajoute, parce que souvent cette posture peut freiner la démarche d'évangélisation, à son avis. Donc, quel est le comportement correct à adopter?
Le comportement correct, c'est aimer de plus en plus Jésus. Voilà. Aimer de plus en plus Jésus. Le reste va... aimer de plus en plus Jésus et être sûr de son amour. Parce que tant qu'on est dans une... je vais en parler quand on va arriver au verset 16. Lorsque nous sommes dans toujours en train d'hésiter sur l'amour de Jésus pour nous, c'est ça qui nous fragilise. Nous devons être conscients qu'il nous aime. Parce que pourquoi parfois nous tombons dans le péché? Nous sommes tombés dans un petit péché et nous avons gardé à l'esprit, malgré la confession, malgré la repentance, nous gardons à l'esprit que Dieu est mécontent de nous. Et cette logique-là que Dieu est mécontent de nous, ça nous fait ressentir que nous sommes rejetés de Dieu, nous ne sommes plus dans son environnement, et du coup, ça nous autorise maintenant à faire un plus grand péché. C'est ce processus-là qui nous éloigne vraiment de Dieu, de penser que un péché a coupé malgré la confession, notre relation avec lui, c'est très dangereux parce que ça nous affranchit de cette relation et ça nous laisse aller dans de mauvaises choses. Donc, nous devons être conscients de cette forte relation d'amour malgré les difficultés. Oui, Rodrigue.
Oui, moi, je voulais juste revenir sur le point où vous dites qu'il faut savoir ce dans quoi on s'engage quand on veut rentrer dans une relation avec Jésus. Quand il dit dans Jean 15, 16, que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et en même temps, il dit que, si je lis le verset, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. C'est-à-dire, en même temps, on voit l'exemple, c'est lui qui a choisi Pierre, il a choisi les apôtres. Eux, ils étaient dans leurs activités et quand il a fait l'appel, ils n'ont pas pu résister parce que quand il t'appelle, il donne ce qu'il faut pour que tu viennes. Dans le cas de Paul qui était parti à Damas pour persécuter les chrétiens, il l'appelle et la transformation était radicale. Dans ce sens, quand je dis il faut savoir ce dans quoi on s'engage dans une relation avec Jésus, c'est comme si en même temps le raisonnement humain peut nous approcher de Dieu où c'est Dieu qui se révèle en réalité à chaque être humain puisque par nous-mêmes on ne peut pas vivre cette relation avec lui et si on est disposé par la foi c'est lui qui se révèle à nous afin que nous puissions vivre une relation parfaite avec lui sinon toute forme de relation par un raisonnement humain ne pourra pas aboutir avec Dieu.
Mais c'est justement, nous sommes en train de dire que l'amour n'est pas dans le raisonnement humain. Nous n'avons fait que dire ça.
Mais pour cela, il faudrait que lui-même se révèle à nous avant
que... Mais oui, mais tu dois décider qu'est-ce que tu veux. Ce n'est pas moi qui dis quelqu'un qui veut construire une tour. C'est lui qui dit, si tu veux construire une tour, tu dois réfléchir. Est-ce que tu iras jusqu'au bout? Donc, lui, il se présente à nous comme un amoureux. Nous devons comprendre que c'est un amoureux qui vient. Ce n'est pas un légaliste. Ce n'est pas un juge, c'est un amoureux. Donc quand tu entends l'appel de cet amour, ah ben, comprends que c'est l'amour qui t'attend. Je ne vois pas la contradiction qu'il y a avec le fait que c'est lui qui commence. Il commence, mais...
En même temps, il dit qu'il met en vous ce qu'il faut pour produire du fruit, c'est-à-dire il va mettre en vous... l'amour qu'il faut pour pouvoir vous attacher à lui et puis oui. Vous donner la foi.
Oui. Mais tu restes toujours maître de toi pour dire non, oui. Sinon, Judas ne serait pas perdu.
Mais moi, je dis que pour Judas, c'était comme Jésus lui-même a dit, le fils de la perdition, c'est-à-dire que ça a été...
Mais il a appelé ou pas?
Pour que ça s'accomplisse.
Non, parce que si tu passes du principe qu'il a appelé, il nous appelle, mais il a choisi aussi Judas, non? Voilà, donc restons simples. Dieu, il dit, ne réveille pas l'amour. C'est pas moi, parce qu'on parle comme si c'est moi qui ai dit.
Non.
Ah voilà. Ne réveille pas l'amour avant qu'il le veuille. Ça veut dire, sache dans quoi tu vas. Sinon, eh ben, ne viens pas faire le bricolage. Sache dans quoi tu vas. Dans quoi tu t'es engagé? Tu t'es engagé à l'amour, tu t'es pas engagé à une équipe de football. Voilà. C'est ça quoi. Verset, nous lisons. Oui, parce que nous devons lire le verset avant de. Oui.
D'accord, parce que l'internaute de tout à l'heure veut finalement comprendre. Peut-on expliquer comment savoir si on est tiède?
Peut-on savoir
expliquer comment quelqu'un peut savoir qu'il est tiède en fait?
Je pense que ça c'est. C'est quelque chose entre la personne et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous convainc de nos erreurs. Donc le Saint-Esprit finira par nous montrer. Vous savez, même parfois, il y a des gens qui travaillent beaucoup pour le Seigneur, mais le Seigneur va te dire un jour tu es tiède. Alors qu'en apparence, tu travailles beaucoup, mais tu aurais pu faire plus. Mais justement, puisque tu travailles beaucoup, tu t'es arrêté, tu as dit, je fais déjà beaucoup. Le Seigneur connaît les capacités qu'il a mises en toi, connaît la soif qu'il a mise en toi. Il sait que tu peux faire plus haut, mais de toi-même, tu t'arrêtes. Mais aux yeux des êtres humains, ils te trouvent parfait. Tu voyages, tu fais ceci. Mais entre toi et le Seigneur, tu sais que tu n'as pas fait ce qu'il fallait parce que à tel moment, il fallait faire telle chose, tu n'as pas fait. Et c'est pourquoi je dis que c'est le Saint-Esprit qui va témoigner cela dans nos cœurs et bien sûr en fonction de la parole. Il y a la parole et le Saint-Esprit. En lisant la parole, et nous saurons que ce passage-là, si nous sommes humbles, je n'accomplis pas tel passage, donc je suis dans la tiédeur, que le Seigneur me ranime. Quoi. Nous continuons nous avons lu le verset 14 à 15.
Non, pas encore. Verset 14. Ma colombe, qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées, fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs.
Voilà, prenez-nous les renards, il y a toujours des pensées du diable, des pics du diable, des petites flèches du diable qui viennent créer des problèmes dans notre relation avec Dieu. Il faut écarter toutes les pensées qui ne viennent pas de la parole de Dieu, les propositions qui ne viennent pas de la parole de Dieu. Il faut être sans pitié pour ça et les écarter. Il faut que la route vers Dieu, le sentier qui nous relie au Seigneur soit libre. Cette route-là, c'est sa parole. Basons-nous de ce que la parole dit et vivons notre vie avec le Seigneur. Ne nous laissons pas perturber par ce qu'un homme peut dire, par ce qu'un système peut dire, mais restons dans ce qui vient de la parole de Dieu. Comme des gens comme la femme qui souffrait de perte de sang, elle n'a pas tenu compte de ce qu'elle pouvait dégager comme peut-être odeur ou bien apparence d'horreur. Elle a foncé vers Jésus. Et elle a été guérie, la femme prostituée, elle est entrée chez les pharisiens, elle n'a pas tenu compte de ce que ces gens-là pouvaient dire, elle a foncé vers Jésus, donc nous devons foncer vers Jésus et écarter tout ce qui peut être un obstacle par la prière et avec l'aide de Dieu. Et nous arrivons au verset extraordinaire, verset 16.
Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Il fait paître son troupeau parmi les lys. Avant que le jour se rafraîchisse et que les ombres fuient, reviens, sois semblable, mon bien-aimé, à la gazelle ou au fan des biches, sur les montagnes qui nous séparent.
Amen. Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Jusqu'à ce verset-là, dans la conception que ce soit des chrétiens, que ce soit de ceux qui ont cru en Dieu avant nous, les juifs, c'est que nous sommes à Dieu. Mais là, il est écrit, là, nous étions dans la deuxième partie, je suis à lui. Mais là, c'est écrit, mon bien-aimé est à moi. C'est comme une forme d'égalité dans l'amour. C'est très, très fort. C'est-à-dire que c'est comme si, de notre côté, nous devons considérer que Dieu est disposé. Dieu se dispose pour nous. Il est là. Il est à moi. Parce que dans notre subconscient, c'est quoi? Je dois chercher. D'ailleurs, il y a un verset qui dit « Cherchez ma face ». Oui, mais pourquoi on dit « Cherchez ma face » Parce qu'il y a des moments où ça se peut, nous nous éloignons. Mais ce n'est pas pour que nous pensions que notre Dieu, lui, il s'éloigne. Non, lui, il est là. C'est nous qui nous éloignons. Il est à nous. Sous-entendu aussi, personne, hein, ça rejoint ce que le frère Paul dit dans Romains 8, qui me séparera de l'amour de Dieu? Nous lirons pour clôturer ce passage-là, Romains à partir du verset 31, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Cantique 2,16, il est à moi. Vous voyez, il y a une différence entre être à Dieu et que Dieu soit à toi. Du moment que Dieu est à toi, ben c'est fini. Rien ne peut plus désormais te priver de ce qui est à toi. Mais alors, quand on dit « je suis à Dieu », bon, ça reste à un seul sens. Mais Dieu est aussi à moi. Ni aucun raisonnement. Seule la parole peut mieux dire ce que j'ai envie de dire là. Nous allons lire la parole. Romains 8, 31, à partir du verset 31.
Romains 8, 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera ? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée ? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés.
Amen, amen. Qui nous séparera de l'amour de Jésus ? Vous savez, quand on dit « je suis à lui », c'est sous-entendu « s'il ne veut plus de moi, ben, c'est fini ». Mais quand on dit « il est à moi », ben, là, c'est comme si c'est moi qui décidais. Je reste, il est à moi. Il est mon Dieu. Ça met comme une forme d'égalité. Il est à moi. C'est mon Dieu à jamais. C'est fort. Et le frère Paul dit, qui me séparera de l'amour ? C'est une affaire profonde, l'amour entre Dieu et son enfant, entre Dieu et son amoureux, entre Dieu et son Église. C'est profond. Personne ne peut briser cela. Personne. Pas, ni même tes pensées. Combien de fois le diable va t'envoyer des flèches. Mais là, c'est fini. Non, mais quand tu sais que non, mais c'est Dieu est à moi, c'est pas fini. Moi, je tiens à lui. Il est à moi. C'est important, bien-aimé, d'entrer dans la dimension que nous amène ce livre, Cantique des Cantiques. La profondeur de l'amour entre Dieu et ses élus, que personne ne peut briser. Peu de gens ont compris cela. Et le frère Paul, le frère Jean font partie des gens qui ont saisi cet amour-là. C'est quelque chose de profond, de grand. Il est à moi. Il est à moi, mon Dieu. Nous étions habitués à être à lui. Mais là, nous savons maintenant qu'il est aussi à nous. Comme un bien personnel, à nous. C'est comme si Dieu se mettait en égalité et d'accessibilité, ben, il est à nous. Personne ne peut nous renier Dieu. Vous savez, quand on dit « je suis à Dieu », c'est comme si je peux être comme son esclave, son domestique, et un jour, un de ses anges peut me dire « sors de là ». C'est quand tu es un employé de quelqu'un ou bien un domestique de quelqu'un ou... Son fils peut un jour dire, nous voulons plus de toi chez nous. Mais quand on dit en plus, il est à toi, le patron est à toi, ah, mais qui va te dire, mais nous, le patron est à moi. Ce n'est pas la même chose. Seigneur, béni soit ton nom. Aujourd'hui, nous sommes dans l'assurance. Tu es à nous aussi. Nous étions à toi, mais nous savons aujourd'hui que tu es aussi à nous. Et personne ne peut nous enlever ce qui est à nous. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse.